Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer l'angioédème héréditaire. Et pour évoquer l'accompagnement des patients qui sont touchés par cette maladie rare, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Isabelle Bocongibeau. Bonjour docteur Bocongibeau.
Bonjour à tous.
Docteur Bocongibeau, vous êtes médecin interniste, vous êtes praticien hospitalier en immunologie clinique à l'hôpital Michelon du CHU de Grenoble. Vous êtes responsable du Centre de référence national de l'angioédème, le Centre CREAC, et vous êtes également membre du comité scientifique de la filière Marie, coordonnatrice nationale du programme d'éducation thérapeutique des patients du CREAC et coordonnatrice du PNDS sur l'angioédème héréditaire qui vient d'être réactualisé. Alors dans les maladies rares notamment, on parle souvent d'accompagnement des patients grâce à l'éducation thérapeutique. Et dans l'angioédème héréditaire, quels sont les enjeux de cette éducation thérapeutique pour les patients ?
Alors les enjeux sont très concrets dans l'éducation, pour l'éducation thérapeutique des patients dans l'angioédème héréditaire. C'est à la fois un enjeu vital, c'est pas seulement un plus ou un supplément de confort, c'est une condition de sécurité, c'est aussi un enjeu d'autonomie du patient et également un enjeu in fine d'une meilleure qualité de vie du patient. En fait, les enjeux concrets, c'est déjà face à une maladie qui est imprévisible, comme l'angioédème héréditaire, qui est une maladie rare, qui a un risque vital en cas d'atteinte des voies aériennes supérieures. Je rappelle que dans le PNDS, les crises des voies aériennes supérieures sont fatales dans 25% des cas en l'absence de traitement spécifique. Et donc l'éducation thérapeutique permet aux patients de mieux comprendre sa maladie, d'identifier les facteurs déclenchants des crises, de reconnaître une crise sévère et surtout d'administrer son traitement sans délai. On insiste également dans le PNDS sur le fait que les patients doivent disposer impérativement d'un traitement de crise à domicile, être formés à l'auto-administration selon le protocole qui a été mis en place avec leur médecin référent. L'ETP permet de diminuer du coup le passage aux urgences, la mortalité par asphyxie en cas d'état d'atteinte des voies aériennes supérieures, d'éviter ce qu'on appelle les laparotomies blanches, les interventions chirurgicales inutiles pour des crises abdominales, et d'améliorer la qualité de vie en redonnant aux patients un contrôle sur une maladie qui peut être totalement imprévisible. Et je rajouterai aussi qu'il existe des traitements très efficaces aujourd'hui de crise, qu'il faut savoir administrer très tôt dans la crise pour qu'ils soient le plus efficaces possible, et également des traitements de fond, des traitements à court terme ou à long terme de prophylaxie pour prévenir la survenue des crises qui vont considérablement améliorer la qualité de vie du patient et diminuer évidemment le risque lié aux crises et l'anxiété des patients. Et ces traitements de fond, j'ajouterai quand même que justement, on va prendre en compte dans l'éducation thérapeutique les préférences des patients, le choix des patients, et ce qui va justement participer à cette amélioration de la qualité de vie.
Et justement, concrètement, quelle est la place de l'ETP dans la prise en charge de l'angioédème héréditaire chez ces patients ?
Alors la place de l'ETP, ça fait donc partie, comme vous venez de le comprendre, partie intégrante du soin du patient, elle est multidimensionnelle parce que, en fait, le PNDS précise donc implicitement qu'il y a l'éducation thérapeutique, les traitements médicamenteux et les modalités de suivi. Mais concrètement, l'ETP doit être proposé dès le diagnostic, puis réévalué régulièrement. Donc, quand le traitement change, quand la situation de vie évolue, par exemple une grossesse, un projet, une chirurgie, un déménagement loin d'un centre expert, à ce moment-là, l'éducation thérapeutique structure le parcours. Elle relie le médecin référent du CREAC, le médecin traitant, les urgences et le patient lui-même. Donc elle garantit que chaque patient, où qu'il vive, bénéficie du même socle de connaissances et des mêmes réflexes de sécurité, de prise en charge et de gestion de la crise.
Merci, c'est très clair. Et quels sont les programmes d'ETP qui ont été mis en place dans le cadre du CREAC ?
Alors, les programmes d'ETP qui ont été mis en place dans le cadre du CREAC, c'est en fait, le CREAC a développé un programme national complet qui s'appelle EduCREAC et ce programme existe depuis 2012. Il a été co-construit avec les équipes des centres CREAC, donc de Paris, de Lille, d'Angers, de Strasbourg, de Nice, de Nancy, de Besançon, de Grenoble. Et il a été aussi enrichi par les retours des patients via notre association de patients nationale, l'AMSAO. Il est validé par les ARS, il a été validé en 2012, en 2016, en 2020 et il a été mis à jour également en 2024. Donc il repose sur à la fois un diagnostic éducatif, ce qu'on appelle un BEP, un bilan éducatif du patient, des séances individuelles, des ateliers collectifs. Donc, il y a 3 modules principaux qui sont gérer la crise, expliquer la maladie aux professionnels de santé et à son entourage, le travail et les loisirs. Il existe donc une mallette pédagogique complète avec des outils ludiques comme l'Enjeu Quiz, qui a été développé notamment par le site de Lille, une partie pédiatrique, particulièrement développée par Paris, et récemment, un escape game pour les adolescents, plus particulièrement développé par Grenoble, et depuis 2023 et 2025, un virage structuré vers ce qu'on appelle l'IETP, c'est-à-dire l'éducation thérapeutique en distanciel. Dans une présentation que j'avais faite en 2025, je donnais des activités de type 300 séances individuelles qui avaient été données sur l'ensemble des sites, des ateliers collectifs à la fois adultes et pédiatriques, et puis l'arrivée aussi de nouveaux sites formés à l'éducation thérapeutique avec ce même programme, des équipes sur place, donc sur Brest, sur Marseille, sur Clermont-Ferrand, et bientôt Bordeaux, Nantes et encore d'autres centres du CREAC. Donc EduCREAC est aujourd'hui le programme, on va dire, national de référence pour l'enjeu des mères héréditaires.
Alors vous avez évoqué la possibilité de risque même vital pour les patients. Quelles sont les principales situations à risque et comment les recommandations actualisées encadrent-elles la prévention des crises dans ce contexte ?
Alors les situations à risque sont très bien identifiées dans le PNDS 2024 et puis dans EduCREAC, dans notre programme. Donc les principales situations à risque sont à la fois les soins dentaires qui sont traumatisants, notamment les extractions dentaires, les dévitalisations, mais aussi des détartrages profonds notamment, les interventions chirurgicales, les gestes endoscopiques tels que les fibroscopies, la grossesse dans certains cas s'aggrave, pas à chaque fois, mais peut s'aggraver, l'accouchement, l'allaitement. Et il faut insister aussi sur toutes les émotions. Donc, on parle de traumatisme, en quelque sorte aussi, non seulement physique, mais psychique. Mais ça peut être des émotions positives, comme des émotions négatives. Par exemple, un mariage, ça peut arriver aussi qu'une émotion positive déclenche une crise. Donc, on sait que c'est ce qu'on appelle des situations à risque, même si c'est pour des bonnes choses. Ensuite, certains médicaments sont contre-indiqués et les patients doivent le savoir. Donc, les œstrogènes chez les femmes, qui sont donc la plupart du temps les pilules qui contiennent de l'œstrogène sont contre-indiquées et les IEC sont contre-indiquées également chez ces patients. Donc, on rappelle que les crises peuvent être déclenchées par des traumatismes physiques, même minimes, y compris des gestes médicaux. C'est pourquoi on recommande une prophylaxie qui soit courte, avant tout soin dentaire invasif ou chirurgie ou fibroscopie, avec une prophylaxie dans l'heure qui précède le geste, jusqu'à 6 heures maximum avant le geste. Donc il faudra une anticipation systématique avant ces chirurgies ou endoscopies. Un suivi spécialisé pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement, et une information claire et multidisciplinaire des professionnels de santé. Donc dans EduCREAC, nous avons un atelier dédié, comment gérer la crise, où l'on travaille précisément sur ces situations avec des outils pédagogiques, des métaplans, des cartes de barreaux, des photolangages.
Merci Dr Bokonjibo, c'est très clair. Alors vous avez évoqué l'entourage qui joue également un rôle important dans cette maladie rare. Comment impliquer les proches dans le cadre de l'ETP ?
Alors l'entourage est effectivement un acteur essentiel dans l'enjeu des mères héréditaires. Vous l'avez compris, les gestions des crises impliquent en fait, non seulement le patient, mais très souvent un membre de l'entourage, tel que le conjoint, le parent quand il s'agit des enfants. Quand on forme à l'administration le patient, on forme également, si possible, un proche qui doit de toute façon être présent à la consultation. En tout cas, elle est proposée aux proches et aux patients. Donc, pourquoi les proches s'impliquent dans cette maladie ? D'abord, ils peuvent reconnaître la crise sévère. Et ils peuvent aider, bien sûr, à la fois en pratique, à l'auto-injection. Ils peuvent aussi aider psychologiquement, émotionnellement, leur conjoint ou leur enfant, enfin le patient, et médicalement, du coup, pour gérer la crise. Ensuite, ils peuvent appeler, par exemple, de façon très concrète, le 15, si c'est nécessaire, s'il y a une atteinte des voies aériennes supérieures et que, voilà, c'est très sévère. Ils peuvent aussi sécuriser les situations au quotidien. Et dans EduCREAC, nous proposons à la fois des séances familiales, des ateliers où l'on apprend à expliquer, où le patient va pouvoir expliquer la maladie à son entourage, des outils pour les proches aussi, des dépliants, des vidéos, des supports pédagogiques et un accompagnement qui est spécifique pour les familles avec enfants et pour les adolescents, dont je vous parlais, donc typiquement l'escape game. Et puis aussi, une chose importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est une maladie héréditaire, que le PNDS rappelle qu'il faut dépister tous les membres de la famille du cas index, et que donc c'est une maladie autosomique dominante, donc un risque sur deux de transmettre la maladie, ce qui est assez important. Donc l'éducation thérapeutique devient un espace pour informer, pour rassurer et accompagner les familles dans ce dépistage.
Un grand merci Dr Bocongibo de nous avoir éclairé sur l'accompagnement des patients touchés par cette maladie rare qu'est l'angioédème héréditaire. Si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.